Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous arrivons aux trompettes suivantes de l'Apocalypse, qui nous annonce les épreuves de l'Église tout au long de son histoire. On entend souvent dire que ces trompettes annoncent les âges de l'Église. C'est vrai, mais il y a deux manières d'analyser les différents âges de l'Église, les différentes époques de son histoire. Il y a une manière factuelle qui fait la liste des événements. Et puis, comme l'histoire de l'Église n'est pas achevée, qui aimerait bien deviner l'avenir? Et puis, il y a une autre manière de lire et de comprendre les épreuves et les âges de l'Église, qui est de les voir dans la providence de Dieu par rapport à la foi, par rapport au salut des hommes, d'y voir la grande lutte qui a commencé dès le début de l'humanité entre le démon et Adam et Ève, lutte qui a atteint son paroxysme lors de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. N'allons pas chercher, mes bien chers frères, dans les prophéties de l'Apocalypse, quel sera le signe de la bête, si ce sera le code-barre qui maintenant est dépassé, puisque c'est le QR code, s'il s'agira d'une puce sous la peau, s'il s'agira... Cela n'a aucun intérêt. Ce qui est certain, c'est que le signe de la bête manifestera l'abandon de la foi, la trahison de la foi par ceux qui le porteront. Car personne ne sera obligé de porter ce signe s'il veut rester fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. L'Apocalypse plus loin nous dit qu'on ne pourra ni acheter ni vendre sans porter ce signe de la bête, et nous nous demanderons à quelle sauce nous serons mangés, et nous nous inquiétons à l'avance de perdre les biens, de vivre dans la pauvreté, d'être pourchassés, que sais-je. Mais c'est déjà dans l'Écriture sainte. Il suffit de lire l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. La foi nous donne une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire qu'on attend le salut. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi nous fait voir ce que les autres ne voient pas, vous voyez. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et qu'il condamna le monde, car la foi condamne le monde. Rappelez-vous bien cela, mes bien chers frères, il y a une lutte, comme je vous le disais, perpétuelle. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi retrouva-t-il son fils par une sorte de résurrection. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Rappelons-nous, mes bien chers frères, que la Pâque est la figure du Christ. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Et que dirais-je encore, poursuit saint Paul, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, teignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Voilà, mes bien chers frères, le fil conducteur, plus que cela, l'âme de l'histoire de l'Église. Et il faut en dire autant de Mgr Lefebvre, on ne se rend pas assez compte de ce que ça prédication toute centrée sur la foi, qui était le seul critère de son attitude face à Rome et aux modernistes, de ce que Mgr Lefebvre nous a remis sur les vrais rails de la religion chrétienne. Dans la crise actuelle, où le démon a été rendu, ou plutôt où il lui a été permis d'être puissant et de combattre avec sa puissance, à cette époque, à la nôtre, où un tiers des étoiles du ciel et des arbres sont tombés, c'est-à-dire la troisième partie des prélats de l'Église, Mgr Lefebvre ne s'est pas laissé arrêter par des habitudes anciennes, par des considérations humaines, par le fait que le pape était ceci ou cela. Il ne s'est pas laissé prendre au piège d'apparentes contradictions. Face au problème du pape, il ne nous a pas donné la réponse à ce problème en nous disant que le pape était pape ou ne l'était pas, ou en expliquant je ne sais quoi. Il nous a dit « c'est un mystère aujourd'hui, plus tard l'Église tranchera, mais en attendant nous conservons la foi ». Comment se fait-il qu'un pape puisse perdre la foi? Comment se fait-il qu'il puisse la combattre à ce point? Comment se fait-il qu'on puisse avoir un pape libéral qui un jour croit et le lendemain ne croit pas, un pape moderniste? C'est le mystère de Dieu, un jour l'Église tranchera, mais nous, nous conservons la foi. Eh bien, que disent les trompettes, mes bien chers frères? Elles disent que la première trompette, ce seront les premiers docteurs de l'Église, ceux qui vont établir la tradition sur ses bases. La tradition, je vous le rappelle, qui est la parole de Dieu orale, laquelle a la même dignité que la parole de Dieu écrite, mais qui a une priorité en ce sens qu'elle est facile à comprendre par le peuple fidèle, alors que la parole de Dieu écrite, la Bible, est difficile à comprendre. La tradition qui contient toute la révélation divine, alors que l'Écriture sainte ne contient pas tout. Elle ne contient aucune erreur, bien entendu, mais elle n'est pas complète. Elle avait besoin d'être complétée parce que l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enseignement du Saint-Esprit, est un enseignement vivant, divin mais humain, qui s'adresse à des hommes et non pas à des machines. Le Christ n'a pas enregistré son message sur un disque dur d'ordinateur une fois pour toutes. Il l'a confié à des hommes. Et puis la trompette suivante nous annonce toutes les épreuves de l'Église, toutes les hérésies, toutes les persécutions. Nous ne nous rendons pas compte, mes bien chers frères, nous qui vivons en chrétienté, de ce que put être la crise arienne, puis après ça toutes les hérésies contre le Christ, et puis ce que fut l'expansion de l'islam qui envahit d'une certaine manière tout le monde connu, enfin pas tout le monde bien entendu, mais qui fit disparaître les si belles chrétientés d'Afrique du Nord, qui envahit l'Espagne, qui réduisit le christianisme d'Orient à Constantinople, caché derrière ses murs. L'islam qui était une telle offense à Dieu, à Jésus-Christ, parce qu'il n'était pas qu'une négation du Christ, il salit le Christ, il le traite comme un prophète alors qu'il est le Dieu trois fois saint. L'islam dit que la Vierge est la mère d'un prophète. Il l'appelle Marie, et d'ailleurs il n'est même pas sûr qu'elle soit vierge pour eux. Ceux qui ont la foi ne peuvent pas supporter cela. Et comme l'islam était violent, ils ont opposé un barrage à la violence. Car il n'est pas vrai que le Christ a interdit d'utiliser la violence. Je veux dire la force, pas la violence, la force. Sinon, il faudrait condamner des siècles d'histoire de l'Église. Non pas une force qui attaque, non pas une force qui détruit, mais une force qui défend, une force qui protège, et une force qui s'oppose à ce que Dieu soit blasphémé et à ce que les âmes soient entraînées dans les griffes du démon. S'il fallait condamner la force, il faudrait condamner Sainte Jeanne d'Arc. Il faudrait condamner les croisades. Mais hélas, les croisés ne furent pas à la hauteur de la tâche qui leur était confiée. Ils cherchèrent des royaumes terrestres, des richesses, et alors la Providence les lâcha, et ce fut la défaite de la chrétienté. Le démon ricanait, car il savait que l'islam durerait, qu'il pourrait encore s'en servir. Bien sûr, pendant des siècles, l'islam n'a pas fait de progrès, mais il continua d'attaquer l'Europe centrale, et il fallut là encore se défendre par la force. À la victoire de Vienne, les armées islamiques étant vaincues, pour se moquer d'eux, on mangea le croissant de lune qui était le signe de l'islam. C'est l'origine de nos croissants que nous mangeons dans les et qui sont fournis dans les croissanteries et les boulangeries, les pâtisseries. Ah, s'ils le savaient. Quand l'islam fut stoppé, le démon le garda en réserve pour pourrir les populations africaines au XIXe siècle et au XXe siècle, les pourrir avant que la foi du Christ ait pu les atteindre, avant que les missionnaires aient pu les convertir. Aujourd'hui, l'islam fait des progrès effarants parce qu'il se présente comme une spiritualité. La franc-maçonnerie est passée par là. Elle a remplacé le vrai Dieu par une idée vague de quelque chose au-dessus de nous. Et cette idée vague qui a été vidée de toute substance par les modernistes dégoûte les pauvres chrétiens qui se font avoir et qui croient que l'islam leur offre une véritable religion, une religion sérieuse. Je vous résume les trompettes. Je pourrais vous lire le texte de l'Apocalypse. Il est très imagé. Saint Jean voit des scorpions. Le dard du scorpion est dans sa queue, et non pas, comme pour le serpent, dans sa bouche. Il voit des sauterelles qui sont violentes comme des chevaux. Ces chevaux ont des couronnes d'or, car ils impressionnent, mais ils ont des cheveux de femme, car ils sont efféminés. Ils ont des dents de lion. Tout cela n'est que fumée, dit le texte de l'Apocalypse. Car les victoires ne manquent pas. Des étoiles tombent du ciel comme des torches, c'est-à-dire des astres brillants qui devaient être de véritables étoiles, qui se sont enorgueillies et qui ont été transformées par Dieu en de vulgaires torches, qui brûlent en faisant de la fumée et qui s'éteignent presque aussitôt. Saint Jean entend le bruit des armées démoniaques et sataniques. C'est un bruit de bataille qui n'a aucune unité, aucune harmonie. La seule chose qui les réunit, c'est leur opposition au Christ, à son Église et aux saints. Mais rassurez-vous, mes bien chers frères, il n'y a que la troisième partie des astres qui tombent, il n'y a que la troisième partie des prélats qui tombent, il n'y a que la troisième partie du peuple qui tombe, car Dieu interdit qu'on touche à tout ce qui est vert, c'est-à-dire à tout ce qui vit de la foi. Mais bien chers frères, aucun de ceux qui conservent la foi ne périra. Pour périr, il faut d'abord abandonner la foi. Il faut abandonner la charité de Dieu. Cela fait une foi morte. Et la foi morte est encore une foi qui croit, mais elle n'est plus une foi qui vit. Elle n'est plus une foi qui dirige la vie. Elle est une foi qui récite des leçons, mais qui n'anime plus rien. Malheur à nous si nous tombons dans cette catégorie. Monseigneur Lefèvre nous mettait en garde contre la perte de l'esprit de foi, c'est-à-dire la foi qui n'est pas encore morte, mais qui n'anime plus la vie. Bientôt elle deviendra une foi morte, et quand la foi est morte, l'aveuglement n'est pas loin. Oui, il y a eu, il y aura de grandes victoires. Et je vous dirai comme saint Paul, nous n'avons pas le temps d'en faire toute la liste. Il faudrait commencer par sainte Clotilde qui sut faire de Clovis ce grand roi chrétien. Il faudrait parler de Charlemagne qui organisa la chrétienté d'une façon si merveilleuse. Il faudrait parler de saint Louis face à l'islam, ce saint si grand qu'il impressionna même le sultan d'Égypte. Il faudrait parler de l'humilité de saint Louis qui marchait pieds nus avec des chaussures sans semelles le jour du Vendredi Saint, par humilité et par pénitence. Saint Louis qui portait des brouettes de terre pour la construction de l'abbaye de Royaumont. Saint Louis qui soignait les lépreux. Il faudrait parler de tous ces saints inconnus, humbles, cachés, qui ont fait fleurir les monastères dans l'Europe entière. Il faudrait parler des religieuses si dévouées dans les hôtels Dieu. La dernière trompette, mes bien chers frères, nous annonce les persécutions de l'Antéchrist. Elles ne seront pas différentes, elles seront plus pernicieuses, plus dangereuses pour ceux qui ne seront pas intimement attachés à notre Seigneur et à la Très Sainte Vierge. Satan usera d'une persévérance démoniaque pour faire céder les bons chrétiens, ne les lâchant ni de jour ni de nuit, rentrant par la fenêtre quand on le chasse par la porte. Ce sera terrible, mais la foi, mes bien chers frères, est bien plus forte. Je termine par une citation de Mgr Lefèvre, à ses prêtres, à ses séminaristes même. « Vous ne vous rendez pas compte, nous avait-il dit en conférence spirituelle, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de vivre votre sacerdoce à l'époque à laquelle vous allez le vivre. Vous aurez autour de vous des fidèles que vos pères ou vos anciens vous envieront. À nous de les mériter, mes bien chers frères. Prions Dieu que le clergé soit à la hauteur de sa tâche. Prions le Saint-Esprit que les oreilles des fidèles écoutent Mgr Lefèvre qui parle à travers eux, lorsqu'ils lui sont fidèles, lorsqu'ils lui sont fidèles. Mgr Lefèvre qui est lui-même l'écho de toute la tradition de l'Église. Notre-Dame, gardienne de la foi, priez pour nous. Notre-Dame, forte comme une armée rangée en bataille, secourez-nous. Ô Marie, secours des chrétiens, venez à notre aide. Et surtout, conservez-nous dans la fidélité à votre Fils crucifié, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.